Alors pour Zemmour, on n'en est plus à une surprise près. Alors quand le candidat au débat en visite au salon Millipol braque un fusil d'assaut sur les journalistes en leur disant « ça rigole plus, hein ? Est-ce un symbole ou juste une blague, juste de l'humour ?» Polémique sur polémique, la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa a immédiatement tweeté en disant que c'était horrifiant, surtout après avoir sérieusement dit c'est Zemmour qui disait vouloir réduire le pouvoir des médias. Zemmour réplique à nouveau en traitant Madame Schiappa d'idiote, qu'elle ne comprenait rien à l'humour, selon
imbécile,
lui une arme
imbécile,
dont elle est déperdue.
Les deux.
Imbécile en Twitter et idiote en leçon. On a passé le son sur Europe 1. Donc il y a les deux.
Pardon, excuse-moi.
Et à nouveau, la question se pose, que cherche-t-il à faire, M. Zemmour?
Non, mais moi, je crois que c'est un geste enfantin et imprudent dont la portée elle-même ne dépasse pas le périphérique. Pourquoi ? Parce qu'on ne pointe jamais le canon d'une arme sur un être humain, quel qu'il soit. Jamais. Tout armurier, et aussi bien à l'armée, dans la police, dans toutes les forces de sécurité, on vous le recommande. Il faut vérifier avant tout, toujours, avec l'éjecteur, si dans la chambre de tir, il y a une cartouche.
Balle.
Et de regarder le canon, de lever l'arme, de regarder le canon si le canon est libre. Et c'est un geste, de toute façon, de précaution que lui-même aurait dû se rappeler, parce que je pense qu'il le sait, simplement. Alors, cela étant, de tweeter alors qu'on siège au Conseil du gouvernement, qu'on est en réunion avec le président de la République, comme l'a fait Marlène Schiappa, Ça passe un peu les bornes aussi. De toute façon, c'est l'assurance de faire une polémique politique. Elle a réussi sur ce plan-là, indéniablement. Mais cela étant, ça ne va pas plus loin. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le sondage et l'étude massive qui a été publiée par Le Monde.
On va y venir, mais sur le geste.
Oui, sur le sniper, dans un premier temps, moi je me suis dit, bon, effectivement, c'est une grosse plaisanterie. Alors, je dirais, c'est le genre plaisanterie de garçon de bain. Est-ce qu'on peut être candidat à la présidence de la République et faire ce genre de petites conneries? C'est-à-dire de prendre un fusil comme
d'assaut,
un...
Bon. Hein. C'est pas n'importe quelle arme.
Mais ça, c'était ma première réflexion, mais il se trouve que j'en ai parlé à quelqu'un qui connaît bien les États-Unis et qui m'a dit immédiatement,
d'ailleurs.
Oui, quelqu'un que je connais bien,
oui,
et qui m'a dit immédiatement, ah, avec un geste comme ça, aux États-Unis, ça lui serait jamais pardonné.
Ah oui.
C'est parce qu'effectivement...
Ou on pardonne tellement d'autres choses en Amérique
non,
avec
mais
les
attendez,
armes.
Oui, mais les armes, justement, parce qu'il y en a tellement en Amérique, et dans chaque maison, il y en a au moins deux ou trois, sinon plus, on fait... Dès les enfants, à 5 ans, on leur dit surtout jamais braquer même un pistolet en plastique.
Mais d'ailleurs,
et on le fait d'ailleurs.
Tu l'as vu avec l'incident catastrophique.
C'est ce que j'allais dire, Baldwin.
Alec Baldwin
qui tue avec un pistolet de cinéma, si j'ose
chargé,
dire.
Chargé.
Donc, si vous voulez, il y a une réaction qu'il ne faut pas sous-estimer d'une partie de notre opinion, parce que le problème Zemmour, à l'heure actuelle, c'est un autre sujet, mais le problème Zemmour, c'est que c'est un peu l'affaire des journalistes, Zemmour, et puis d'une fraction de l'opinion. On n'est pas sûr que toute l'opinion soit encore tout à fait en mouvement, en prise directe là-dessus. Et un sujet comme celui-là, que les journalistes ont tendance, et moi le premier, je le disais, à prendre un peu comme une blague, peut être un sujet plus profond pour une partie de l'opinion, une tendance lourde qui dit mais après tout ça se fait pas, c'est des choses qu'on fait pas,
mais ça
on
ne doit jamais se faire,
on ne fait pas et on ne doit pas le faire.
On voit effectivement on le voit qu'il le fait avec plaisanterie parce qu'on voit sur les images,
il
sourit, mais il braque quand même les journalistes et ça ne se fait pas. Et à mon avis, ça ne peut pas se faire pour un candidat. Ça peut à la rigueur se faire pour un candidat qui n'en est pas encore un. Mais c'est surtout
ce
que ça va de pair. Ça va de pair quand même à une remise en cause des contre-pouvoirs. C'est vrai que là-dessus, je comprends assez bien la réaction naturellement partisane de la ministre.
De Marlène Schiappa.
De Marlène Schiappa, qui est... il attaque systématiquement les contre-pouvoirs. Contre-pouvoir de la presse, contre-pouvoir du Conseil constitutionnel, contre-pouvoir des cours internationales de justice. Et là, c'est une attaque un peu brutale du contre-pouvoir que représentent les journalistes. Je remarque d'ailleurs que les journalistes, avec un temps de retard d'ailleurs, ont dit hier, et si on partait, on laissait les choses, et puis ils ne partiront pas, ils laisseront les choses. Mais il est évident que Zemmour, candidat, à mon avis, ça lui aurait fait un dommage considérable. Non candidat, à la rigueur, on peut l'oublier.
Catherine Ney.
Bon, mais vous avez déjà presque tout dit, mais moi j'ai trouvé que c'était un geste enfantin, mais qui en disait quand même long sur ce qu'il peut faire, ses dérapages, vous voyez.
Il en a commis d'autres.
Ça vous met mal à l'aise, on a l'impression.
Mais ça me met mal à l'aise, je me dis, peut être imprudent, et maintenant il est dans une phase où on lui pardonne tout. Moi, ce que je ne lui pardonne pas, c'est d'avoir traité Marlène Schiappa d'imbécile. Voilà. On traite pas une ministre d'imbécile. Il a une manière, il aurait pu répondre avec de l'humour, que c'était un jeu et tout ça. Et que je trouve qu'avec les femmes, il a la gâchette facile, vous voyez. Et quand il parle dans ses livres des femmes, moi, je le trouve très... Je suis étonnée que les féministes n'aient jamais réagi à ce qu'il disait sur Strauss-Kahn, sur le prédicateur musulman qui a violé des femmes...
Tariq Ramadan,
où il est très, très, très... Vraiment, il le défend. Et je suis étonnée que les féministes n'aient pas réagi à cette nouvelle écart.
Parce que c'est le premier livre, c'est surtout dans son premier livre, Le suicide français, qu'il a dit ça, puisqu'il a fait remonter tous les problèmes politiques au fait que les femmes se soient mêlées de politique. Et alors vraiment, ça a été un désordre considérable. On n'a rien dit non plus, d'ailleurs. Les femmes n'ont rien dit non plus.
Mais ça prouve qu'elles disent pas son livre, sûrement, alors. Oui. Franchement, je ne sais pas.
Oui, mais il y a quand même quelque chose à se demander. Est-ce que l'opinion va réagir de manière classique ou de manière fiévreuse? Classique, ça, je veux dire par là ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire voir le côté critique de ce geste. Ou alors de se dire, comme je lisais un papier de Bourlange, Jean-Louis Bourlange, qui est député, qui est macroniste, donc, qui n'est pas du tout zémourien, mais qui disait finalement le phénomène Zemmour, c'est la rage et l'effroi d'une société catholique, bourgeoise, plus encore que populaire, qui est saisi d'effroi et de rage par l'avènement d'un monde qui la marginalise et prétend effacer tous ses repères culturels, politiques et religieux. C'est l'explosion du woke et de la cancel culture qui a mis le feu aux poudres. Si c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est cette deuxième interprétation, c'est-à-dire si c'est véritablement une révolte, comment dire, de fond sur les repères sociaux, culturels, etc., alors là, l'histoire du fusil, du sniper en carton-pâte ou réel n'aura aucune influence. Parce que, je veux dire, la vague l'emportera. Mais peut-être qu'on restera dans quelque chose de plus mesuré, plus classique.
Charles, moi, je crois que le discrédit des partis de gouvernement est maintenant installé au cœur de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, l'enquête à laquelle vous allez faire allusion, sur laquelle vous allez nous questionner, Pierre, le montre très bien. La confrontation entre des candidatures hors système et des candidatures anti-système apparaît dans cette enquête et n'a pas du tout disparu et ressemble à l'élection présidentielle de 2017, le dégagisme.
Justement, c'est l'occasion de faire une pause et on revient juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Ah, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On parle d'Éric Zemmour et on parle surtout de cette étude du CVPOF qui est non plus faite sur un échantillon de 1000 personnes, mais là sur beaucoup plus, Charles Villeneuve.
16 822 personnes.
Et qui évidemment donne des indications, notamment sur Éric Zemmour, puisqu'on parle de lui.
Mais elle répond en partie à ma question que je posais juste avant la pub. Je dis, elle est simple la question. Est-ce que c'est un phénomène passager qui va durer ce que durent les roses un peu plus quelques semaines et qui va rétrograder comme un certain nombre de phénomènes du même genre connus précédemment dans l'histoire? Ou alors est-ce que c'est une lame de fond qui est alimentée par des motivations très puissantes comme, et c'est ce que posait d'ailleurs ce macronien que je citais pour dire qu'effectivement c'est probablement un problème de fond qui est posé.
Oui, voilà. Parce que cette étude qui est profonde, qui est importante, révèle qu'il y a une dynamique autour d'Éric Zemmour qui change la donne et le niveau d'entrée au second tour des élections présidentielles. En avril dernier, ce ticket d'entrée se situait au niveau de 25%. Il est aujourd'hui à 16%, 9 points de moins, puisque Éric Zemmour est à 16, à pratiquement égalité avec Marine Le Pen, qui est à entre 15 et 16 points. Elle aussi, Zemmour siphonne d'ailleurs une bonne partie de son électorat. C'est en cela que la dynamique existe.
Ça continue, voilà. En fait.
Oui. Non, mais juste, je finis sur l'enquête. L'enquête montre aussi, en contrepartie, que Zemmour inquiète les Français.
Une partie, 57%.
Ben oui, c'est quand même beaucoup.
Et qu'il est démagogique, 56%. Alors que Marine Le Pen a fait à peu près à peu près les mêmes chiffres.
Catherine.
C'est-à-dire qu'il y a une image quand même de Zemmour qui n'est pas forcément collable avec les votes.
Mais d'ailleurs, ce qui contribue à différente. Ça, ce qui contribue
est-ce que vous pouvez laisser parler,
non, mais on ne peut pas en aligner une. Hein.
Catherine.
Non, mais franchement... Non, ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est qu'il il reprend exactement les propositions de Jean-Marie Le Pen, qui dit lui-même, Éric et moi, on a les mêmes idées. Bon, mais Éric Zemmour, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Le Pen, il y avait la France d'un côté, la mauvaise France de l'autre. La bonne France, c'était les Blancs, c'était tout ça, et les mauvais, c'était les immigrés qu'il fallait arrêter. Zemmour va plus loin. Lui, la mauvaise France, ce sont les musulmans, en incluant évidemment les musulmans de France, qui sont français, qui peuvent se sentir très agressés par lui. Or là, si vous voulez, ça serait Le Pen qui dirait ça. Aujourd'hui, on dirait c'est pas possible, il y aurait des manifestations. Or là, il y a une forme d'acceptation de qui est Zemmour, d'inertie, de non, même la gauche ne réagit pas à ça, ou elle n'est pas entendue en tout ça. Donc il y a eu... Alors, c'est Le Pen qui a cette explication. Il dit, mais dans le fond, Zemmour, à la différence de moi, peut tout dire parce qu'il est juif. Donc, il ne peut pas être considéré comme un nazi, comme un fasciste. Et donc, il peut dire des choses qui heurteraient si c'était moi qui le disais. Mais parce que c'est Zemmour... C'est Jean-Marie Le Pen qui dit ça. Et il a raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, sa fille, elle s'adresse peut-être au peuple, mais on ne l'entend plus. Je veux dire, elle a complètement gommé. Elle n'est plus... dans la succession du père, vous voyez. Tandis que celui qui a succédé...
Elle a voulu
se dédiaboliser. Ouais. Bon, mais là, aujourd'hui, dédiaboliser, Zemmour, il est au-delà et on voit que tout le monde dit... Alors, il dit, c'est formidable. Vous voyez, Zemmour, c'est la victoire de Le Pen.
Oui,
c'est
et la en même temps, c'est, en son sens-là, j'avais dit il y a plusieurs semaines, c'est Trump. Parce que c'est comme ça que Trump a gagné. C'est en étant dans l'exagération.
N'est pas Trump qui veut, dit François Hollande dans son livre.
Oui, on n'est pas Trump qui veut, c'est vrai. Mais c'est moi, j'ai vécu le mécanisme qu'a porté Trump au pouvoir. Je ne dis pas ce qu'il a fait après, mais je parle de l'accession au pouvoir. Oui. C'est très exactement le même type de motivation des populations.
Michel.
Alors, je pense aussi que sur Trump, on voit très bien quand même que c'est un de ses inspirateurs souterrains de Zemmour. Et c'est vrai que ce qu'il dit...
Il n'y a qu'à voir son affiche d'ailleurs, l'avenir de campagne, Make America Great Again, et la couverture du livre de Zemmour.
C'est vrai que lorsqu'une de ses premières déclarations, pour donner raison à Catherine, lorsqu'une de ses premières déclarations, c'est de parler de Vichy, mais je pense au scandale que ça aurait fait si Marine Le Pen avait dit Pétain, ça a été ça aurait fait un scandale formidable. Pour le moment, tout coule.
Merci les grandes voix, et on dit bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour. Bonjour les grandes voix, comment ça va?
Ça va.
Très bien, on vous emmène aux champignons avant les grosses gelées aujourd'hui. Et puis nous allons aussi faire un beau dossier, puisque c'est les vacances, sur les fermes auberges et les nouvelles auberges populaires et gastronomiques à la fois. Et Fabrice Eboué sera avec nous.
Bonne émission, Laurent.